Mazarin, Anne d'Autriche, un tandem contesté. La France va continuer son voyage en empruntant un nouveau tandem. Il est composé d'Anne d'Autriche, la régente, et de Mazarin. Tantôt l'un pédale et l'autre tient le guidon, tantôt c'est l'inverse. C'est souligné plaisamment combien leur voyage fut celui de l'union, union qu'ils ont déclinée dans son sémantisme le plus complet. Le dauphin, la régente et le cardinal. Très maternelle avec son petit Louis Dieudonné, Anne d'Autriche va se prendre d'amitié, puis de tendresse et d'affection, pour l'ondoyant cardinal Mazarin qui n'a qu'une idée en tête. Accroître les impôts par tous les moyens. 30 ans après son avènement, le 14 mai 1643, Louis XIII meurt, rongé par la tuberculose, et malmené par les 215 lavements que son médecin, Bouvard, lui a prescrits en quelques mois. 3 semaines auparavant, on lui avait amené le dauphin Louis, né le 5 septembre 1638. Il venait d'être baptisé. On l'avait approché du roi, très malade. « Comment vous appelez-vous désormais ?» avait demandé Louis XIII. Et le dauphin de répondre, du haut de ses 4 ans et demi,
« Je m'appelle Louis XIV, mon papa. »«
Pas encore, » avait répondu le roi en souriant. Le dauphin avait pour parrain Jules Mazarin. Mazarin est le fils de Pietro Mazzarino, intendant d'une grande famille italienne, les Colonna, et d'Hortensia Bufalini, issue d'une famille noble. Né en 1602 à Pescina, dans les Abruzzes, il a fait de brillantes études au collège des Jésuites à Rome. Compagnon de chambre du jeune Colonna, il étudie à l'université d'Alcala, en Espagne. Unanimement apprécié pour ses qualités de fin diplomate, parlant le français, correctement mais avec un fort accent, il rencontre le cardinal de Richelieu en janvier 1630 à Lyon. Cette rencontre est déterminante. Richelieu tombe sous le charme de cet Italien au ton doux, aux attitudes dont la souplesse masque habilement une volonté ferme et déterminée. Nommé cardinal, bien qu'il soit étranger, laïque, et né roturier par son père, il devient ministre et chef du conseil à la mort des deux inséparables Louis XIII et Richelieu.
Monsieur Vincent, Paris 1643. En plein jour, ou à la nuit tombée, on peut voir passer dans les rues un homme un peu tassé, un peu voûté, vêtu d'une soutane et dont l'expression du visage traduit une immense bonté. Il se dirige, panier au bras, vers les lieux où les pauvres s'assemblent, vers ceux où les enfants sans famille cherchent refuge. Il mène pas à pas, obstinément, un combat contre la misère. On l'appelle Monsieur Vincent. Ce n'est pourtant pas n'importe qui, ce monsieur Vincent, qui trottine dans la boue des ruelles parisiennes. C'est lui qui tenait dans ses bras le roi Louis XIII lorsqu'il a poussé le dernier soupir. C'est lui qui fut le confesseur de la belle reine Margot, l'amie de François de Sales, 1567-1622, le fondateur avec Jeanne de Chantal, la cousine de Madame de Sévigné, des sœurs de la Visitation. C'est lui qui, effrayé par la médiocrité du clergé de campagne, a créé la Société des prêtres de la mission, appelée Lazariste, depuis que le prieur de Saint-Lazare leur a donné un local. C'est lui qui a fondé l'Ordre des Filles de la Charité, religieuses qui viennent en aide aux pauvres et recueillent les enfants trouvés. Mais pour réaliser tout cela, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Où M. Vincent en a-t-il trouvé une partie ? Chez les Gondi, une riche famille d'origine florentine dont il a été le précepteur des enfants. Beau parcours pour Vincent, fils de paysan des Landes, né en 1581 près de Dax. Vous pouvez visiter à Saint-Vincent de Paul la chaumière de sa naissance. Ordonné prêtre à 19 ans, prisonnier des barbaresques à Tunis, avant de revenir à Rome et de poursuivre sa vie à Paris. Monsieur Vincent, mort en 1660, fut canonisé en 1737. Il devint Saint-Vincent de Paul. Un Saint-Vincent qui déambule au fond des cœurs, vous emboîte le pas et parfois réussit à vous faire chercher dans votre poche une pièce.
Rappelez-vous le cri d'Anne d'Autriche lors de la fête donnée à Amiens, au cours de laquelle elle avait rencontré dans l'obscurité Buckingham. Eh bien, ce cri n'est probablement pas issu d'une situation que vous aviez pu imaginer aussi torride que cette soirée de juin. Anne d'Autriche, bien qu'elle ne fût ni amoureuse ni satisfaite de Louis XIII, ne se laissa jamais aller à de coupables entreprises où les sens s'affolent. Jusqu'en 1643, elle était surveillée de très près afin que la paternité d'un éventuel dauphin ne soit pas contestable. Et même si son affection, son amitié sont remarquées et sincères pour le cardinal lorsqu'elle commence à vivre dans sa proximité, rien n'est décelable qui pourrait confiner à l'amour. Elle-même s'en confie à une amie.
« Je te l'avoue, oui, je l'aime tendrement, mais mes sens n'y ont point de part. »
Oui, certes. Mais la tendresse et l'amitié sont des sentiments d'antichambre. Ils peuvent fort bien y séjourner longtemps et s'en contenter. Il semble que pour Mazarin et Anne d'Autriche, ils se sont retrouvés de l'autre côté de la cloison. C'est même une certitude lorsqu'on lit les lettres qu'ils s'adressent. On pense même qu'ils contractèrent un mariage secret. Ce qui est certain, c'est que la régente Anne d'Autriche a aimé passionnément Jules Mazarin. Il faut souhaiter qu'elle fût payée de retour avec la sincérité qu'elle méritait, et que le cardinal ne se laissa aimer que parce qu'il le jugeait utile. De l'argent, toujours de l'argent. C'est l'objectif principal de Mazarin dès que lui est confiée la présidence du Conseil de Régence. Comment trouver de l'argent pour poursuivre la politique de Richelieu? En augmentant les impôts et en créant de nouveaux. Ainsi, les conseillers de Mazarin découvrent qu'Henri II avait interdit que des constructions soient élevées autour de Paris, cela afin que sa défense fût mieux assurée au cas où la ville serait attaquée. L'ordonnance oubliée, des maisons se sont élevées un peu partout. Excellente occasion pour créer un impôt sur ces édifications illégales. C'est l'impôt du toisé, qui sera perçu malgré l'opposition du Parlement, mais ne rapportera guère.
Noblesse de robe, noblesse d'épée. La noblesse de robe n'a cessé d'accroître son influence depuis le XVe siècle. Elle est composée de la haute bourgeoisie qui a pu acheter un office, une fonction, dans les finances ou dans la justice. Ces bourgeois ont été anoblis et, du fait de l'hérédité des offices, l'annoblissement aussi est devenu héréditaire. La noblesse de robe rachète à bas prix les terres des nobles d'épée, ceux qui ont été anoblis pour avoir défendu le royaume, souvent désargenté. Elle tire de ses propriétés rachetées des sommes considérables qui lui servent à mener un grand train de vie à Paris où elle possède de luxueux hôtels. Cette noblesse de robe et les bourgeois aisés composent une grande partie du Parlement qui, au temps de Richelieu, se tenait tranquille, mais qui se révolte lorsque Mazarin veut trouver de nouveaux impôts.
Mazarin tente alors de créer un impôt sur les aisés, qui est une sorte d'emprunt obligatoire auprès des grosses fortunes. Cela provoque une levée de boucliers telle que le projet est abandonné. Que reste-t-il? La taille, la gabelle, les taxes aux octrois. Leur augmentation est décidée. Depuis le début du siècle, la perception de ces taxes et impôts est confiée à ceux qu'on appelle les traitants ou partisans. Ce sont des intermédiaires, souvent des étrangers, qui fournissent au roi les sommes dont il a besoin et se chargent ensuite de percevoir les contributions en gardant pour eux la différence, une différence importante.